de Plan Large.
Plan Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan Large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Jacques Anchaud, bonjour.
Bonjour.
Vous me recevez dans un alpage, dans un des alpages de cette région incroyable de l'Étiva. On va raconter l'aventure de l'Étiva, de cette AOP, la première de Suisse, l'épopée de l'AOP. On est où et pourquoi on est là?
Alors exactement, nous sommes dans la vallée de l'eau froide. La région de l'Étiva comprend deux vallées, une vallée qui est celle de la Tornaresse et puis celle de l'eau froide. Alors l'alpage où nous sommes s'appelle les Tomes et c'était ce qu'on appelle un A1er, c'est l'alpage où on sort le printemps avec les vaches, le premier alpage avant de monter plus haut avec le bétail, donc les Tomes à 1200 mètres d'altitude.
Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément dans le grand public, qu'il y a des niveaux d'alpage en somme, qu'au printemps, on ne peut pas aller tout en haut, on doit monter par palier finalement dans les pâtures.
Exactement, contrairement au Jura où en général les chalets, les éleveurs ou les producteurs de fromage sont pendant tout l'été sur le même chalet, ici dans les Préalpes, c'est aussi le cas en Valais où il y a les Mayens avant de monter sur les hautes. Eh bien, ici, on a des alpages de basse altitude qui sont entre 1000 et 1300 mètres. Et puis ensuite, nous sommes des nomades. Nous montons avec le troupeau, la famille, le matériel sur des alpages plus hauts au fur et à mesure de l'évolution de la végétation.
C'est la Poya.
C'est la Poya.
Bon, ben, la Poya nous amène en Gruyère, évidemment. On est ici, dans le pays d'en haut, aux marges de cette région du fromage internationalement reconnue qu'est le Gruyère. On va parler, évidemment, de l'aventure de cette AOP, mais ma vision de néophyte, vraiment, dans cette chose-là, c'est de dire, ben, voilà une région qui est dans la région, on va dire, culturelle du Gruyère, mais qui devait se distinguer. C'est un peu ça?
Alors c'est un peu ça, mais à l'origine, le Pays d'en haut faisait partie du comté de Gruyère jusqu'au Sanetsch quasiment, la commune de Gsteig, après Gstaad. Et puis cette culture d'économie alpestre et de fabrication de fromage d'alpage, elle date de cette époque-là. Et puis ce qui s'est passé au début du siècle passé, c'est que les producteurs de fromage de l'Étiva, qui était vendu sous l'appellation Gruyère ou Gruyère d'Alpage, considéraient que leur fromage n'était pas suffisamment bien vendu en tenant compte des caractéristiques particulières, notamment sensorielles de ce fromage qui est très fruité, qui est très goûteux et qui n'était pas vendu assez cher, qui était vendu au même prix que le Gruyère, ont décidé de se sortir de l'Union Suisse du commerce de fromage qui était à l'époque un grand appareil étatique qui s'occupait de la commercialisation des fromages de Suisse. Et puis on peut dire que c'est à partir de 1932 que l'histoire de l'Étiva a débuté.
Je ne suis pas sûr que j'aurai les mêmes réponses si je descends un peu dans la vallée de l'Intiamont, mais l'Étiva, c'est mieux que le Gruyère?
Alors l'Étiva, on ne peut pas dire que c'est mieux que le Gruyère parce que je pense que chaque fromage au monde a ses spécificités et ses amateurs. Ce qu'on peut dire avec l'Étiva, c'est que c'est un fromage d'alpage exclusivement. Ça veut dire qu'on a fait, on a pu le démontrer scientifiquement, c'est que l'herbe que les vaches consomment l'été, entre le 10 mai et le 10 octobre, c'est des herbages naturels qui poussent sans engrais de synthèse, sans...
C'est la pleine nature.
C'est la pleine nature. Ouais. Et la diversité botanique des herbages que les vaches consomment donne un goût très particulier, très floral, très fruité à ce fromage, alors que le Gruyère, c'est un fromage qui est fait toute l'année, donc qui est fait l'hiver dans les fromageries avec des fourrages conservés.
Ça veut dire que parfois, les fourrages conservés, je traduis, dire que parfois les vaches ont consommé du foin sec.
Elles consomment d'autres, ça peut être des pommes de terre, ça peut être, enfin, il y a toute une liste d'aliments qui sont autorisés dans le cahier des charges du Gruyère, alors que pour l'Étiva, c'est exclusivement des herbages naturels, à l'exception des conditions météo
exceptionnel,
si une sécheresse. Si on a de la sécheresse, si on a de la neige, parce que j'ai quand même passé des étés à 1800 mètres avec 40 cm de neige au mois de juillet.
Et donc là, le cahier des charges permet de donner de la nourriture de substitution.
Le cahier des charges le permet, effectivement.
Voilà, donc on a le chien de l'alpage et mon petit cello qui m'accompagne, qui sont en train de jouer. Ils vivent leur vie, ça va très bien. Alors, on va raconter l'histoire de cette AOP, je le rappelle, la première de Suisse. Mais d'abord, je reviens à ce que vous disiez, hein, c'est un fromage goûteux, c'est un fromage... pour ceux qui connaissent mal le monde du fromage et qui connaissent bien, peut-être un peu plus facile, le monde du vin, on a cette notion de la dégustation du vin avec... Il y a des notes de ci, de ça, floral, cuir, etc. Avec le fromage, on peut jouer à ça aussi, hein, on peut dire, un grand connaisseur peut dire, probablement que les vaches étaient à telle altitude, ont mangé tel type d'herbe, tel type de fleurs.
Oui, alors l'étude dont je vous parlais a démontré justement que l'influence qu'avait le fourrage que les vaches consomment sur les caractéristiques sensorielles du lait, de la crème, du beurre et du fromage. Alors, plus on monte en altitude, plus on a un panel élargi d'arômes et de goûts qui sont définis par des spécialistes du goût. Et la roue des arômes est très, très riche dans les fromages de Letiva, où on a plus de 50 descripteurs.
On fait des dégustations à l'aveugle aussi pour le fromage ?
On fait des dégustations à l'aveugle. Alors, on l'a fait... Dans le cadre de cette étude, dans le projet de demande d'enregistrement de Letiva comme AOP. Et puis, c'était assez intéressant parce que l'étude était faite avec différents fromages, des fromages qui sont faits en plaine, où on n'a pas cette diversité botanique, et puis des fromages qui étaient faits sur différents alpages de la région ou de la zone de Letiva. Et on avait des descripteurs, on avait, si on prend les fromages qui étaient faits avec des fourrage conservé dit artificiel, ça veut dire qu'on a semé de l'herbe avec trois variétés botaniques, on avait très peu de descripteurs. Quand on était sur l'alpage le plus haut, à 1900 mètres d'altitude, on avait une centaine de variétés botaniques et jusqu'à 57 descripteurs. Donc ça passait du goût de fleurs, goût d'ortie, goût d'ananas, café, cuir, saveur animale, fumée, enfin, etc. Donc on avait cette
richesse. Ananas, café, ça complètement contre-intuitif, hein, mais oui. Dans le monde du vin, il y a ça aussi, hein, des goûts comme ça, des saveurs qui ne veulent rien dire dans nos régions, mais qui sont là. Bon, cette aventure de l'AOP nous ramène à la fin du siècle passé. On est à l'orée des années 80, 90.
24 septembre 1999.
Alors ça, c'est l'aboutissement, c'est l'enregistrement, ça a commencé avant l'aventure.
Alors l'aventure a commencé, on peut dire, une dizaine d'années avant l'enregistrement, à l'époque de la réforme agricole sous la houlette de Jean-Pascal Lamurat, qui était en charge de l'économie. Et puis c'était une réforme en profondeur, et puis on savait que le système helvétique qui permettait un soutien au marché, en d'autres termes, c'est le Conseil fédéral qui décidait chaque année du prix de la prise en charge du lait en fonction des coûts de production, que ce système allait tomber, et puis qu'il y aurait deux solutions, soit on crée des produits à haute valeur ajoutée, soit on continue à travailler dans la logique industrielle, mais c'est le marché qui va dicter les prix.
Donc ça, c'est une révolution libérale, hein, sur le prix du lait, dont on parle énormément encore aujourd'hui, où les producteurs sont finalement les marionnettes du marché, quoi.
Absolument. Donc ce qui s'est passé à Letiva, c'est que comme il vaut mieux, il est plus sage de penser à ce qui pourrait arriver lorsque la tempête survient dans le calme plutôt que quand elle est là. Ouais. C'est ce que nous avons fait. Nous avons réfléchi, nous avons dit, mais nous, à Letiva, est-ce que les producteurs continueront à monter sur des alpages avec un troupeau de vaches laitières pour faire du fromage à perte? Non. Alors on a dit qu'il faut se préparer à cette échéance, donc on s'est préparé tranquillement en allant visiter des filières d'appellation d'origine protégée dans les pays avoisinants, la France qui est le pays précurseur, l'Italie, l'Espagne, et puis c'est là qu'on a compris les règles et puis qu'il fallait avoir une zone géographique définie, que le produit, quel qu'il soit, soit influencé par les caractéristiques pédoclimatiques de cette zone. Et puis, nous avons fait toutes ces études dont je parlais tout à l'heure sur l'influence du fourrage sur le goût du lait, de la crème, du beurre et du fromage, pour finalement aboutir à la création d'un cahier des charges qui a dû être accepté par la majorité des producteurs, puisqu'on est dans une démarche collective. On ne peut pas imposer, puisqu'il y a une mise à l'enquête publique du dossier au moment où la Confédération considère qu'il est abouti. Donc, ça s'est fait comme ça, mais toujours dans le calme.
Bon, ouais, dans le calme, vous avez l'air de nous raconter ça un peu comme si c'était une longue marche tranquille. On s'est mis à réfléchir avant que la tempête arrive. Il a quand même fallu convaincre, hein. J'ai lu un peu des relations de cette époque-là, où que ce soit du côté des autorités, que ce soit du côté des banques, que ce soit du côté des producteurs, les visionnaires dont vous faisiez partie étaient un petit peu traités comme des jeunes révoltés qui amenaient des idées dont on n'avait pas idée, justement.
Oui, un peu comme des illuminés. Donc ça a été, oui, alors ça a été assez dur. Quand je parle de la réflexion dans le calme, c'était au niveau du conseil d'administration, puisque j'en faisais partie depuis 1982. Et puis, ce qui a un petit peu poussé à cette démarche vers l'AOP, c'est que les caves laitives étaient trop petites, et puis que nous avions un projet d'agrandissement qui ascendait à 2 millions et demi environ, et que les producteurs n'en voulaient pas. Alors c'est là que ça a été difficile, parce qu'il a fallu dire aux producteurs, écoutez, nous aujourd'hui, dans la perspective de demander un enregistrement AOP, nous n'avons pas d'autre choix que d'agrandir pour valoriser les fromages et pour les vendre, mais nous avons en même temps...
Ça veut dire qu'il fallait lâcher des sous, c'est ça?
Il fallait lâcher des sous, il fallait investir de l'argent, ouais, dans ce que les producteurs ne voulaient pas, ils ne voyaient pas l'intérêt, puisqu'on était encore dans un système de protection du marché, où le prix du lait était garanti, en disant, mais qu'est-ce qui nous dit qu'on nous abandonnera? Personne ne nous abandonnera, parce que... On avait toujours ce réflexe de la fin de la Deuxième Guerre mondiale où l'agriculture suisse avait permis à la Suisse isolée au milieu de l'Europe de s'auto-approvisionner. Donc les paysans se disaient, mais nous, il n'y a aucun souci, tous les jours vont nous vénérer, vont nous soutenir. Et puis nous, dans le comité, on a dit non, on va partir dans cette démarche d'autonomie. Alors on a promis aux producteurs que si... l'Assemblée acceptait cet investissement de 2,5 millions, eh bien on deviendrait autonome, pas seulement dans la production, puisque c'était déjà le cas à l'époque, mais dans la gestion de la coopérative et dans la commercialisation des fromages. Alors quand on l'a fait, on était un peu naïf, parce qu'on pensait que c'était simple. On a découvert après que c'était beaucoup plus compliqué que ça.
Et l'aventure a duré quelques années avant cette toute fin du siècle, hein, où cette première AOP suisse a été officiellement établie. On va continuer d'en parler d'ici quelques instants. À tout de suite.